Simon Pierre, Sa vie et ses épîtres, par W.T.P. Walston, édition 1950. Troisième enregistrement. Chapitre 9. Ses questions. Luc, chapitre 12. Cependant, les foules s'étant rassemblées par milliers, de sorte qu'ils se foulaient les uns les autres, il se mit, avant tout, à dire à ses disciples, « Tenez-vous en garde contre le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Mais il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. C'est pourquoi toutes les choses que vous avez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière, et ce dont vous avez parlé à l'oreille dans les chambres sera publié sur les toits. Mais je vous dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, craignez celui-là. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous, et pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Et je vous dis, quiconque m'aura confessé devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui aura proféré des paroles injurieuses contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Et quand ils vous mèneront devant les synagogues, et les magistrats, et les autorités, ne soyez pas en souci comment ou quelle chose vous répondrez, ou de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Et quelqu'un lui dit du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Mais il lui dit, « Homme, qui est-ce qui m'a établi sur vous pour être votre juge et pour faire vos partages ?» Et il leur dit, « Voyez, et gardez-vous de toute avarice, car encore que quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. » Et il leur dit une parabole, disant, « Les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferais-je ? Car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits. » Et il dit, « Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, et j'en bâtirai de plus grands, et j'y assemblerai tous mes produits et mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais grande chair. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche quant à Dieu. » Et il dit à ses disciples, « À cause de cela, je vous dis, ne soyez pas en souci pour la vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont pas de cellier ni de grenier, et Dieu les nourrit. Combien valez-vous mieux que les oiseaux? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas même ce qui est très petit, pourquoi êtes-vous en souci du reste? Considérez les lys, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui au champ et qui demain est jetée dans le four, combien plus vous vêtira-t-il, gens de petite foi? Et vous ne recherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et n'en soyez pas en peine, car les nations du monde recherchent toutes ces choses. et votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Mais recherchez son royaume, et ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et donnez l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas et où la teigne ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque moment qu'ils reviennent des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, ils lui ouvrent aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillants. En vérité, je vous dis qu'il se scindra et les fera mettre à table et, s'avançant, il les servira. Et s'il vient à la seconde veille, et s'il vient à la troisième, et qu'il les trouve ainsi, bienheureux sont ces esclaves-là. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle heure le voleur devait venir, il eût veillé et n'eût pas laissé percer sa maison. Vous donc aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Et Pierre lui dit, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous ou aussi pour tous ?» Et le Seigneur dit, « Qui donc est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les domestiques de sa maison pour leur donner au temps convenable leur ration de blé ? Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si cet esclave-là dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en deux, et lui donnera sa part avec les infidèles. Or cet esclave qui a connu la volonté de son maître, et qui ne s'est pas préparé, et n'a point fait selon sa volonté, sera battu de plusieurs coups. Et celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses qui méritent des coups sera battu de peu de coups, car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé, et à celui à qui il aura été beaucoup confié, il sera plus redemandé. Je suis venu jeter le feu sur la terre, et que veux-je si déjà il est allumé? Mais j'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli? Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais plutôt la division, car désormais ils seront cinq dans une maison, divisés. Trois seront divisés contre deux et deux contre trois, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Et il dit aussi aux foules, « Quand vous voyez une nuée se lever de l'Occident, aussitôt vous dites, « Une onde vient, et cela arrive ainsi. » Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, « Il fera chaud, et cela arrive. » Hypocrite, vous savez discerner les apparences de la terre et du ciel, et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste? Car quand tu vas avec ta partie adverse devant le magistrat, efforce-toi en chemin d'en être délivré, de peur qu'elle ne te tire devant le juge, et le juge te livrera au sergent, et le sergent te jettera en prison. Je te dis que tu ne sortiras point de là, que tu n'es payé jusqu'à la dernière pitte.
Matthieu 18, versets 21 à 35.
Alors Pierre, s'approchant de lui, dit, « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à sept fois ? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui voulut compter avec ses esclaves. Et quand il eut commencé à compter, on lui en amena un qui lui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur ordonna qu'il fût vendu, lui et sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que le paiement fût fait. L'esclave donc, se jetant à ses pieds, lui rendit hommage, disant, « Seigneur, use de patience envers moi, et je te paierai tout. » Et le seigneur de cet esclave-là, touché de compassion, le relâcha et lui remit la dette. Mais cet esclave, étant sorti, trouva un de ceux qui étaient esclaves avec lui, qui lui devait 100 deniers. Et l'ayant saisi, il l'étranglait, disant, « Paye, si tu dois quelque chose. » Celui donc qui était esclave avec lui, se jetant à ses pieds, le supplia, disant, « Use de patience envers moi, et je te paierai. » Et il ne voulut pas, mais il s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Or ceux qui étaient esclaves avec lui, voyant ce qui était arrivé, furent extrêmement affligés. Et s'en vinrent et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, l'ayant appelé auprès de lui, lui dit, « Méchant esclave, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi ? » Et son seigneur, étant en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Ainsi aussi mon Père céleste vous fera, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur chacun à son frère.
Matthieu 19, versets 16 à 30.
Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit, « Maître, quel bien ferai-je pour avoir la vie éternelle ? » Et il lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon ? Un seul est bon. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ? » Et Jésus dit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres. » Et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. » Et le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous dis, qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous le dis encore, il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'aiguille, qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. » Et les disciples, l'ayant entendu, s'étonnèrent fort, disant, « Qui donc peut être sauvé ?» Et Jésus, les regardant, leur dit, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. » Alors Pierre, répondant, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc ? » Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de mon nom, en recevra 100 fois autant, et héritera de la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. »
Marc 11, versets 12 à 14 et 20 à 26.
Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais, y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et répondant, il lui dit, « Que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché depuis les racines. Et Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, Rabbi, voici, le figuier que tu as maudit est sec. Et Jésus répondant leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et il vous sera fait. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes.
Marc 13, versets 1 à 4.
Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelles pierres et quels bâtiments !» Et Jésus, répondant, lui dit, « Tu vois ces grands bâtiments, il ne sera point laissé pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas. » Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre et Jacques et Jean et André l'interrogèrent en particulier, « Dis-nous quand ces choses auront lieu. » Et quel sera le signe quand toutes ces choses devront s'accomplir?
Jean 13, versets 21 à 26.
Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage et dit, « en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. » Les disciples se regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui ils parlaient. Or l'un d'entre ses disciples que Jésus aimait était à table dans le sein de Jésus. Simon-Pierre donc lui fait signe de demander lequel était celui dont il parlait. Et lui s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, « Seigneur, lequel est-ce ? » Jésus répond, « C'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donne à Judas Iscariote, fils de Simon.
Jean 13, versets 31 à 38.
Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et incontinent il le glorifiera. Enfin, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous ne pouvez venir. Je vous le dis aussi maintenant à vous. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre. Comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. » Mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je laisserai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu laisseras ta vie pour moi. En vérité, je te dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. »
Pierre posa au Seigneur un certain nombre de questions, dont le caractère dénote un homme excessivement simple, en même temps qu'un auditeur attentif au discours de son maître. Elle montre combien son esprit réfléchissait au ministère divin qu'il entendait chaque jour. Ce ministère restait certainement très au-dessus de sa compréhension du moment. Pourtant, sa façon brusque de formuler certaines de ses questions prouve une intelligence active et réfléchie, peu en rapport avec son tempérament impulsif. Nous allons en étudier quelques-unes pour autant que nous en puissions saisir la suite logique. Point A. Responsabilité et récompense. Question 1.
Pierre lui dit, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous, ou aussi pour tous ?»
Luc 12, verset 41. Qu'est-ce qu'une parabole ? Dans l'Écriture, c'est une figure qui a une signification détournée, mystérieuse.
Ainsi, je prêterai l'oreille au discours sentencieux, j'exposerai mon énigme sur la harpe.
Psaume 49, verset 4.
J'ouvrirai ma bouche en parabole, J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois.
Psaume 78, verset 2, dit le doux psalmiste d'Israël. D'où nous concluons qu'une parabole et une énigme sont synonymes. Pierre considérait donc les instructions contenues au chapitre 12 de Luc comme une parabole, bien que le Seigneur ne les présente pas sous cette forme. Mais les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit qui ouvre l'intelligence. Luc groupe les événements au point de vue moral, sans s'inquiéter de l'exactitude historique. Matthieu se préoccupe du caractère juif du Messie, et Marc recherche la suite chronologique. En Luc 11, Christ a été définitivement rejeté par la nation d'Israël. Le chapitre 12 suppose son absence de la terre, les disciples placés comme témoins dans la puissance du Saint-Esprit, à venir, quand il aura été élevé au ciel, et le monde opposé à eux. Les pièges, les ressources trouvées en lui pendant son absence, l'attitude à prendre jusqu'à son retour, tels sont les sujets principaux de ce passage. Premièrement, l'hypocrisie est évitée par la lumière de Dieu. Toutes choses seront révélées, versets 1 à 3. Deuxièmement, la peur de l'homme est chassée par une crainte plus élevée, la crainte de Dieu, le cœur rempli du sentiment de sa protection, les cheveux de leur tête étant tous comptés, versets 4 à 7. Troisièmement, la fidélité à Christ sera reconnue, versets 8 à 11. Quatrièmement, le Saint-Esprit leur viendra en aide pour quoi que ce soit qu'ils aient à dire devant les synagogues, versets 11 et 12. Que d'encouragements sont donnés, la lumière de Dieu, les soins de Dieu, la récompense de Christ et la puissance du Saint-Esprit. Rejeté, le Seigneur refuse d'être juge, mais invite les siens à se garder de toute avarice, et introduit ici la parabole de l'homme riche. Qu'advint-il de cette âme? Le remède contre la maladie dont il était atteint, l'avarice, consistait à être riche quant à Dieu, versets 13 à 21, ce qui amène le Seigneur à développer les grands principes qui doivent animer les siens, ne pas se préoccuper du lendemain, mais se confier en Dieu. Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses, mais recherchez son royaume et ces choses vous seront données par-dessus. Verset 31. Ainsi la peur, l'avarice, les soucis, trois petits renards qui abîment les fruits de la vigne de Dieu, doivent être chassés. La peur de l'homme par la crainte de Dieu, l'avarice par la richesse quant à Dieu, les soucis par la confiance en Dieu. Dieu nous libère de ce monde pour nous faire entrer dans le ciel et nous occuper de lui jusqu'au moment de son retour. Mais il y a plus. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Verset 32. Notre cœur peut craindre de ne pas avoir le nécessaire pour le lendemain. Son cœur à lui se montre en nous donnant le royaume. La connaissance de ce but élève l'enfant de Dieu au rang de pèlerin et d'étranger. Il peut se séparer des choses d'ici-bas, car il a un trésor dans le ciel. Là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Verset 34. La devise du monde est « travaille et amasse ». Le commandement du Seigneur à ses enfants « ne garde rien, mais donne ». Quelle différence! Pour en être capable, le croyant doit posséder un trésor dans le ciel. Et pour le posséder, il doit comprendre que le Seigneur a aussi un trésor sur la terre, c'est-à-dire les siens. Notre cœur alors l'aimera, car
nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier.
1 Jean 1, verset 19. La teigne, la rouille, les voleurs, tôt ou tard, balayeront tout ce sur quoi reposent nos cœurs ici-bas. Trois choses influencent le cœur ici. Le Père qui donne le royaume, le trésor de prix dans les cieux, et l'attente du retour du Seigneur.
Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître à quelque moment qu'il revienne des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillants. En vérité, je vous dis qu'il se scindra et les fera mettre à table, et, s'avançant, il les servira. Vous donc aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Verset 35-40.
Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, nous devons attendre éveillés, nos lampes allumées et prêts. La position exprime l'attente, tandis que le service occupe les heures de veille. Quand il reviendra, il nous prendra dans la maison du Père, se scindra, nous fera asseoir et nous servira. Comprenons ceci comme une allusion à son humanité, car, dans son amour, il nous a toujours servi. L'amour le poussa à devenir homme et même à mourir. Quand il aura les siens dans la gloire, il les servira encore, car il ne cessera jamais d'aimer, et l'amour aime servir. L'enseignement de ce chapitre paraît clair, mais Pierre restait incertain quant à son application, ce qui le pousse à dire «
Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous ou aussi pour tous ?»
La réponse du Seigneur n'offre pas de doute.
Qui donc est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les domestiques de sa maison pour leur donner au temps convenable leur ration de blé ? Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens.
C'est 42-44. Responsabilité liée à la profession, voilà ce que le Seigneur nous rappelle. Tous ceux qui font profession du nom du Seigneur sont compris ici, vrais ou faux, là n'est pas la question. Les disciples de Christ doivent revêtir deux caractères. Premièrement, l'attendre éveillé. Deuxièmement, le servir jusqu'à son retour.
Occupé jusqu'à ce que je vienne.
Et la parole du Maître. Luc 19, verset 13. Celui qui veille fidèlement et sincèrement l'attend, les reins saints, et travaille avec patience jusqu'à son retour, recevant de lui joie et bonheur. Comme prix de sa fidélité, il sera établi sur tout ce qui appartient au Seigneur. Quant à ceux qui font faussement profession de son nom, les détails de leur fin sont donnés à Pierre. C'est 45-48, de telle façon qu'il s'en souvint et en reparle dans ses épîtres, spécialement dans la seconde. Nous tous, serviteurs de Christ, prenons garde à ces mots. Point 2. Comment pardonner? Question numéro 2. Alors Pierre, s'approchant de lui, dit
« Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. »
Matthieu 18, versets 21 et 22. Cette question découle tout naturellement de ce qui précède, qui comporte des principes d'une immense importance pour l'enfant de Dieu. Matthieu 18 suppose Christ absent, rejeté, ainsi que l'avait prédit le chapitre 16, car la gloire prévue au 17 n'est pas encore arrivée. Au chapitre 16, deux sujets étaient traités, l'Église qui allait être bâtie et le royaume des cieux, dont les clés sont données à Pierre. Le Seigneur ici reprend ces deux questions, à savoir l'esprit qui devrait caractériser les siens et qui serait digne de son royaume, puis la place que l'Église allait occuper sur la terre, aussi bien en ce qui concerne la discipline que la prière. La douceur d'un petit enfant incapable d'affirmer ses droits dans un monde qui les ignore, l'esprit d'humilité et de dépendance, seul convient au royaume, versets 1 à 4. Le souci de ne pas blesser un de ses petits nous est enjoint, combiné avec la plus stricte sévérité envers soi-même. Matthieu 18, versets 1 à 4.
En cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus, disant, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Et Jésus, ayant appelé auprès de lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. »
Le souci de ne pas blesser un de ces petits nous est enjoint, combiné avec la plus stricte sévérité envers soi-même. Être une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en Christ pourrait entraîner un jugement terrible. Tendre soin pour le plus faible, jugement sévère de soi-même, telle allait être la règle du royaume. Cela étant, aucune occasion de chute ne pourrait atteindre le plus faible. Versets 5 à 9.
Et quiconque reçoit un seul petit enfant tel que celui-ci en mon nom me reçoit, et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule d'âne et qu'il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. Malheur au monde à cause des occasions de chute, car il est nécessaire qu'il arrive des occasions de chute. Mais malheur à cet homme par qui l'occasion de chute arrive. Et si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou estropié que d'avoir deux mains ou deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu.
Plus loin, le Père pense à ses petits, ils sont les objets de sa faveur. Il ne les méprise pas, au contraire, il les admet en sa présence, si bas soient-ils. Son Fils, le Fils de l'homme, est venu pour sauver ce qui était perdu. Versets 10 à 14.
Prenez garde de ne pas mépriser un de ces petits, car je vous dis que, dans les cieux, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité je vous dis qu'il a plus de joie de celle-là que des 99 qui ne se sont pas égarées. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse.
En outre, si une offense surgit, si un frère pêche, un pardon plein de grâce serait obtenu. C'est l'esprit du royaume, un esprit de grâce. D'un côté, les disciples devaient être comme de petits enfants en dépendance et en humilité. De l'autre, ils devaient imiter leur père pour être moralement comme lui et être ainsi de véritables enfants du royaume. Christ étant monté au ciel, l'Église doit le représenter et occuper sa place sur la terre. Qu'un frère pêche, le disciple doit le gagner. L'orgueil humain attendrait qu'il s'humilie, l'amour divin va chercher l'offenseur. C'est ce que Dieu a fait. Il envoya son Fils pour chercher le pécheur perdu. Ses enfants doivent agir de même. Si ton frère t'a fait du tort, va vers lui et corrige-le. L'amour actif cherche toujours le bien, même chez celui qui fait tort.
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Verset 15. Ce n'est pas le coupable qui est placé devant l'esprit de celui qui marche sur les traces de Christ, mais c'est ton frère. S'il écoute, l'affaire sera enterrée dans le cœur de celui qui a été offensé. S'il méprise cette grâce, deux ou trois témoins essaieront d'atteindre sa conscience. Si cela encore se révèle inutile, la chose sera placée devant l'assemblée. Et s'il refuse d'écouter l'assemblée,
qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain.
Verset 17. Le ciel ratifiera ce que l'assemblée a lié sur la terre. Si deux ou trois sont d'accord sur la terre pour demander quelque chose, le Père entendra et répondra.
Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
Verset 20. Que ce soit pour la discipline ou pour la prière, le Seigneur pose ici le principe que, si deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Que ce soit pour une décision ou pour la prière, ils sont comme Christ sur la terre, car Christ lui-même est avec eux. Pierre fut évidemment très pénétré de la grandeur de ces vérités. Aussi est-ce bien compréhensible qu'il désira connaître l'étendue de la responsabilité, d'où sa question.
« Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à sept fois ?»
L'idée que Pierre se faisait de la grâce allait jusqu'à sept fois. Au-delà de la loi, qui exigeait la justice et ignorait le pardon, et même au-delà de l'état de nos âmes, mais cela est encore insuffisant pour Christ. La pensée de Pierre était, « Supposons que mon frère pèche contre moi et qu'il recommence sans cesse, combien de fois dois-je lui pardonner ?» Le Seigneur répond,
« Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. »
Verset 22. Sous la loi, le pardon était inconnu, mais œil pour œil et dent pour dent. Dans le royaume des cieux, sous le règne d'un Christ rejeté mais divin, le pardon prend le même caractère, il est illimité. Le Seigneur insiste sur le fait que notre pardon n'a pas de limite et doit agir constamment, car il est le reflet des voies de Dieu envers l'homme. Rappelons-nous que c'est une question de péché envers nous et non envers le Seigneur. L'Église ne peut pardonner aucun péché envers le Seigneur jusqu'à ce qu'il l'ait pardonné et lui pardonne seulement après la confession du péché. Comme croyants, nous devons nous pardonner l'un à l'autre sans compter jusqu'à 70 fois sept fois. C'est vraiment divin, car Dieu ne peut pas être surpassé en ce qui concerne le pardon, et tout chrétien est appelé à pardonner selon ce divin modèle. Bien rares sont ceux qui pardonnent jusqu'à sept fois. Nous croyons toujours avoir bien agi en pardonnant une ou deux fois. Mais la question de Pierre développe une ligne de conduite toute différente. Point 3. Dévouement et récompense. Question 3.
Alors Pierre, répondant, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc ?»
Matthieu 19, verset 27. Pierre est bien humain. Sa question détruit la valeur de son dévouement. Il en estime le prix et n'a pas considéré toute chose comme une perte pour Christ. Telle est la chair qui se montre sous une forme chez le jeune homme riche et sous une autre chez Pierre. Le jeune homme s'était informé.
« Quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle ?»
Verset 16. Il n'avait pas compris qu'il était perdu et voudrait agir pour gagner la vie. Le Seigneur le reprend sur son propre terrain en lui répondant.
« Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Et Jésus dit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Versets 17 à 19. Le Seigneur cite la loi.
Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?»
Verset 20. Quelle ignorance ! Il lui manquait l'essentiel, la seule chose qui vaille la peine d'être possédée, ses biens lui étaient une entrave pour recevoir la bénédiction de Dieu.
Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. »
Verset 21. Qu'appréciait-il le plus, la vie éternelle ou ses richesses?
Le jeune homme, ayant entendu cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Verset 22. il les préférait à Jésus. Jésus connaissait ce cœur et avait mis le doigt sur la cupidité qui, en réalité, s'était emparée de lui. Les richesses forment un obstacle lorsqu'il s'agit du royaume de Dieu. Le Seigneur l'exprime clairement.
En vérité, je vous dis qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous le dis encore, il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu.
Verset 24. C'est hors nature qu'un chameau entre par le trou d'une aiguille, de même qu'un homme riche n'entre dans le royaume de Dieu.
Et les disciples, l'ayant entendu, s'étonnèrent fort, disant, « Qui donc peut être sauvé ?» Et Jésus, les regardant, leur dit, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, toutes choses sont possibles. »
Versets 25 et 26. Tant qu'il est question de l'homme, cela est impossible. Si l'homme devait faire quoi que ce soit pour entrer dans le royaume, les richesses seraient un empêchement, car il voudrait les prendre avec lui. Tout ce qui est de l'homme est un obstacle pour atteindre le royaume, tandis que avec Dieu, toutes choses sont possibles, et c'est seulement par la puissance de sa grâce que l'homme atteint le royaume. Sa puissance n'a pas de limite, et quelles que soient les difficultés, il peut travailler et il le fait. C'est ainsi que nous voyons le riche Zachée béni, un riche Joseph réclamer le corps de Jésus, ou encore, dans son amour souverain, il appela quelques membres de la maison d'Hérode et en convertit dans le palais de César, tandis que la grâce se manifeste tout entière dans le cas d'un Barnabas ou d'un Saul de Tarse. Cette leçon quant aux richesses provoque la question de Pierre.
« Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc ?»«
Quelle sera la part de ceux qui ont renoncé à tout pour suivre le Seigneur ?»« Les riches ne seront sauvés que difficilement. Que doivent attendre ceux qui sont devenus pauvres pour suivre Jésus ?» La réponse équivaut à ceci. « Vous avez très bien fait en me suivant. »
« En vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme se sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de mon nom en recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. »
Verset 28-30. Celui qui aura renoncé à quoi que ce soit pour l'amour de Jésus en recevra 100 fois autant, il héritera de la vie éternelle, et chacun aura sa place dans le royaume. Les 12 apôtres auront la première place dans l'administration du royaume terrestre, quand, sous le règne du Fils de l'homme, un état de choses tout nouveau sera établi. Chacun recevra sa récompense selon la fidélité de sa marche. Le sujet des récompenses est très clairement traité dans le Nouveau Testament, non comme un but, mais comme un encouragement pour ceux qui ont souffert pour le nom de Christ. C'est Christ qui nous appelle à le suivre, c'est pourquoi toute âme trouvera en lui son modèle. Ne confondons pas la grâce avec la récompense. La grâce pardonne nos péchés et nous donne une place au ciel. Notre fidélité déterminera notre place, car Christ devrait être notre seul mobile dans notre marche journalière. Du Seigneur, nous recevrons la récompense pour ce que nous aurons fait, soit bien, soit mal. Voir 2 Corinthiens 5, verset 10.
Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal.
N'oublions pas cette parole.
Plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et des derniers seront les premiers.
Pierre avait besoin de se l'entendre dire afin de l'engager à marcher soigneusement au moment où il choisissait de suivre le Seigneur. Point 4. prière et pardon. Question numéro 4.
Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et, voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et répondant, il lui dit que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi. Et ses disciples l'entendirent. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché depuis les racines. Et Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, « Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec. »
Marc 11, versets 12 à 14 et 20 à 21. Cette remarque de Pierre, même si elle n'est pas sous forme d'une question, donne au Seigneur l'occasion de développer le sujet.
Et Jésus répondant leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père, qui est dans les cieux, ne pardonnera pas non plus vos fautes. »
Versets 22 à 26. Le figuier représente Israël comme nation. Israël, le figuier de Jéhovah, couvert de feuilles, ne produit aucun fruit et encombre. Condamné par Dieu, il sèche, figure de la malédiction prononcée sur ce peuple. Possédant tous les avantages dont un homme peut jouir sur cette terre, cette nation malheureuse, malgré les soins divins, ne produit aucun fruit pour Dieu. Il est écrit au sujet d'Israël.
Mes frères, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la loi et le service divin et les promesses, auxquels sont les pères et desquels, selon la chair, est issu le Christ, qui est sur toutes choses Dieu béni éternellement. Amen.
Romains 9, versets 4 à 5. Malgré tous ces privilèges, ils ne portent pas de fruits pour Dieu, quoique les feuilles, les formes extérieures de la religion, soient abondantes. La dernière preuve en fut le rejet de Jésus, et, en le refusant, Israël a signé son propre arrêt de mort. L'histoire de l'homme, d'Israël, est finie. On a pu trouver quelques difficultés à interpréter ce passage,
car ce n'était pas la saison des figues.
Comment le Seigneur pouvait-il s'attendre à en trouver? Une particularité du figuier est de produire deux récoltes de fruits par an. Pendant que la première mûrit, la seconde se prépare. Ainsi l'arbre porte toujours des fruits, mûrs ou pas. C'est pourquoi le Seigneur prononce son jugement. L'arbre n'avait que des feuilles. En outre, Jésus assure à ses disciples que, quoi qu'ils demandent par la foi, cela leur sera accordé, pourvu que leur marche soit empreinte d'un caractère de grâce. En priant, il faut aussi pardonner. Si nous ne recevons pas toujours de réponse à nos prières, c'est que nos cœurs ne sont pas droits devant Dieu à ce sujet. On garde toujours quelques rancunes. Pour jouir de la grâce et du privilège de la prière, nous devons constamment user de grâce envers notre prochain. Point 5. Veille et travail. Question numéro 5.
Et comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelles pierres et quels bâtiments !» Et Jésus répondant lui dit, « Tu vois ces grands bâtiments? Il ne sera point laissé pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas. » Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, vis-à-vis du temple, Pierre et Jacques et Jean et André l'interrogèrent en particulier. « Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe quand toutes ces choses devront s'accomplir ?»
Marc 13, verset 1 à 4. Pierre n'est pas seul. Comme d'ordinaire, son nom est en tête, et il posa probablement lui-même la question. La réponse du Seigneur embrasse une vue générale de l'histoire du peuple juif, de la formation et du caractère de l'Église, et enfin de la bénédiction et du jugement des gentils. Matthieu chapitre 24 et 25 donnent davantage de détails, en même temps que l'évolution des voies de Dieu vis-à-vis du royaume. Marc, par contre, selon le caractère de son évangile, s'occupe du service des apôtres suivant les circonstances qui les entourent, service qu'ils accomplissent au milieu des Juifs. Ils auraient à rendre témoignage contre les autorités qui les persécuteraient et à prêcher l'évangile parmi les nations. Ils auraient à prendre la place du Seigneur comme témoins au milieu d'Israël et parmi les nations avant son retour en gloire. Personne ne pouvait savoir le jour et l'heure de ce retour, d'où cette injonction donnée au verset 33.
Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps sera.
Ce commandement est suivi d'instructions spéciales pour les esclaves, pour tous ceux qui aiment le Seigneur.
C'est comme un homme allant hors du pays, laissant sa maison et donnant de l'autorité à ses esclaves et à chacun son ouvrage. Et il commanda au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, ou à minuit, ou au chant du coq, ou au matin, de peur qu'arrivant tout à coup il ne vous trouve dormant. Or, ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez.
Versets 34 à 37. Deux points saillants sont à observer, veiller et l'attitude de l'esclave. Travailler son caractère. Le Seigneur a donné à chacun son ouvrage. Il y a place pour tous, du travail pour tous ceux qui l'aiment. Deux n'ont pas le même travail, pas plus que l'un ne peut remplacer l'autre. Soyons fidèles dans le travail qui nous est alloué à chacun. Point 6. Intimité et ses résultats. Question numéro 6.
Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage et dit « en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. » Les disciples se regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui il parlait. Or l'un d'entre ses disciples, que Jésus aimait, était à table dans le sein de Jésus. Simon-Pierre donc lui fait signe de demander lequel était celui dont il parlait. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, lequel est-ce » Jésus répond « C'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donne à Judas Iscariote, fils de Simon.
Jean 13, versets 21 à 26. Le Seigneur touche à la fin de son ministère terrestre quand, durant le dernier souper avec tous les disciples, Pierre s'aperçoit de la peine de Jésus et s'en émeut.
« L'un d'entre vous me livrera. »
Les disciples, perplexes, se regardent l'un l'autre et chacun d'eux demande
« Seigneur, est-ce moi ?»
Matthieu 26, versets 22 à 25.
Et, en étant fort attristés, ils commencèrent chacun d'eux à lui dire « Seigneur, est-ce moi ?» Et lui, répondant, dit « Celui qui aura trempé la main avec moi dans le plat, celui-là me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, et malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il eût été bon pour cet homme-là qu'il ne fût pas né. » Et Judas, qui le livrait, répondant, dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Il lui dit, « Tu l'as dit. »
Le Seigneur ne répond pas tout de suite. Pierre, toujours brûlant, fait signe à Jean de demander lequel était celui dont il parlait. Nous pouvons à bon droit nous étonner de ce que Pierre n'ait pas posé la question lui-même. Jean était assis à côté du Seigneur. Pierre ne l'était pas. Il lui manquait la qualité que Jean possédait. La concentration d'esprit et un cœur constamment occupé de Jésus. Jean ne s'approche pas de Jésus pour recevoir ce renseignement, mais il le reçoit parce que, Selon son habitude, il se tient dans une proximité étroite du Seigneur, proximité nécessaire pour connaître ses secrets. Il parle toujours de lui-même comme
du disciple que Jésus aimait.
Comptant sur cet amour, il avait posé sa tête sur le sein de Jésus au moment de sa tristesse. L'amour de Jésus forma le cœur de Jean et influença sa vie. Cela lui donna une magnifique fermeté dans son affection et une confiance enfantine dans la joie du Seigneur d'avoir près de lui le disciple qu'il aimait. D'autres auraient pu jouir de cette même place, mais n'en profitaient pas. Nous aussi, nous pourrions occuper cette même place, proche de notre Sauveur, où le cœur jouit de l'amour de son Seigneur. Pour entendre les secrets qu'il désire nous communiquer, restons près de lui. C'est la clé de tout progrès spirituel, car ainsi nous apprendrons à connaître Christ. Et plus nous goûterons son amour, plus nous serons heureux de vivre près de lui. Pierre savait que le Seigneur l'aimait, et lui aussi aimait le Seigneur, c'est certain, mais il était encore trop occupé de lui-même pour jouir de cette intimité. Plus tard, quand il fut devenu un vase brisé et vidé de lui-même, Dieu put l'employer à son service. Mais pour connaître une liaison intime avec Jésus, on se tourne naturellement vers Jean plutôt que vers Pierre. Point 7. Confiance en soi et son issue. Question 7.
Lors donc qu'il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. » Et incontinent, il le glorifiera. Enfant, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et, comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous, vous ne pouvez venir. Je vous le dis aussi maintenant à vous. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. » Mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je laisserai ma vie pour toi. » Jésus répond, « Tu laisseras ta vie pour moi. En vérité, je te dis, le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié trois fois. »
Jean 13, versets 31 à 38. Judas, démasqué, reçoit le morceau. Et sa cupidité l'emporte. Satan, l'employant à sa propre destruction, durcit son cœur contre tout sentiment purement humanitaire. Il le pousse à commettre l'acte le plus vil qui se puisse concevoir, trahir un compagnon intime, tout en le couvrant de baisers. Finalement, le diable l'abandonnera au désespoir dans la présence de Dieu. Moralement, tout était fini quand Judas sortit. Et le Seigneur garde présente à l'esprit la portée de ce moment solennel.
« Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, » déclare-t-il.
Il envisage quelles devaient être les pensées de Dieu quant à l'issue de la perfidie de Judas. Car devant lui s'est levée la croix, sacrifice unique dans l'histoire de l'éternité, et de laquelle dépendaient les bénédictions que Dieu allait répandre sur l'homme. La sainteté et l'amour se sont rencontrés et réconciliés à la croix. La sainteté qui juge le péché, l'amour qui sauve le pécheur. Dieu ayant été glorifié par son Fils, le glorifie en le faisant asseoir à sa droite. Pierre ne peut pas saisir la portée de ses paroles.
« Seigneur, où vas-tu ? »
dit-il. Jésus lui répond,
« Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Mais tu me suivras plus tard. »
Il prévoyait le martyre de l'apôtre, et cela aurait dû suffire. Mais non, Pierre, toujours plein d'ardeur et sûr de soi, continue à interroger.
« Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? »
Et, sans attendre la réponse, il insiste,
« Je laisserai ma vie pour toi. »
Pierre, semble-t-il, aurait pu se contenter des paroles du Seigneur, Mais, trop occupé de lui-même, bien que très attaché au Seigneur, il est trahi par sa ferveur naturelle. Car dans son assertion, Jésus ne put lire que l'énergie de la chair et non la puissance de l'esprit. La vanterie est facile, mais toujours triste. Le Seigneur le réprimande en lui annonçant sa chute. Quelle leçon pour nous. Chapitre 10. Criblé comme le blé. Luc 22, versets 31 à 34.
Et le Seigneur dit, « Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. » Et il lui dit, « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller et en prison et à la mort. » Et il dit, « Pierre, je te dis, le coq ne chantera point aujourd'hui que premièrement tu n'aies nié trois fois de me connaître. »
Luc 22, versets 54 à 62.
Et se saisissant de lui, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Or Pierre suivait de loin. Et lorsqu'ils eurent allumé un feu au milieu de la cour et qu'ils se furent assis ensemble, Pierre s'assit au milieu d'eux, et une servante, le voyant assise auprès de la lumière, et l'ayant regardé fixement, dit, « Celui-ci aussi était avec lui. » Mais il le renia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Et peu après, un autre le voyant dit, « Et toi, tu es de ces gens-là ? » Et Pierre dit, « Ô homme, je n'en suis point. » Et environ une heure après, un autre affirma, disant, « En vérité, celui-ci aussi était avec lui, car aussi il est galiléen. » Et Pierre dit, « Ô homme, je ne sais ce que tu dis. » Et à l'instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur, se tournant, regarda Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, comme il lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement.
Quel contraste dans l'histoire de Pierre entre Luc 22 et Matthieu 17. En Matthieu 17, l'apôtre se trouvait sur la montagne, dans la présence de la gloire du Fils de l'homme. Toujours impulsif, il désirait rendre à son maître tout l'honneur qui lui était dû. En Luc 22, nous assistons à une scène solennelle qui comporte tout un enseignement pour nous, car nous aussi, une fois ou l'autre, nous pourrions être tentés de renier le Seigneur. Oublieux de ce qu'il avait vu sur la montagne, plein de lui-même, Simon est démasqué par Satan qui le fait trébucher. L'Écriture ne nous dépeint pas seulement les côtés lumineux de ceux qui servirent le Seigneur fidèlement, mais elle nous montre aussi leur faiblesse. Afin que la grâce de Dieu soit plus éclatante encore à nos yeux, cette grâce qui retire les siens hors de l'abîme, dans lequel ils se laissent trop facilement embourber. Cette chute brisa la propre volonté de Pierre et lui apprit non seulement ce qu'il était lui, mais surtout ce qu'était son maître. La Pâque approchait, Jésus savait qu'il allait mourir. 6 jours auparavant, Judas avait vendu son maître pour 30 pièces d'argent, peu de choses, le prix du plus petit esclave. Prenons garde à ne pas nous laisser entraîner comme Judas, qui préféra l'argent à Christ. Tous, même un enfant de Dieu, en nous éloignant de Christ, nous nous mettons à la merci du diable. Jusqu'à maintenant, le Seigneur avait toujours pris soin et protégé ses disciples. Désormais, ils devront se suffire à eux-mêmes. Versets 35 à 38.
Et il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? » Et ils dirent, « De rien. » Il leur dit donc, « Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut encore que ceci qui est écrit soit accompli en moi, et il a été compté parmi les iniques. Car aussi les choses qui me concernent vont avoir leur fin. Et ils dirent, « Seigneur, voici deux épées. » Et il leur dit, « C'est assez. »
À ceux qui viennent le prendre dans le jardin, il dit,
« C'est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres. »
Verset 53.
« Simon, Simon,
dit le Seigneur,
voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. »
Versets 31 à 32. Simon reçoit un avertissement. S'il y avait pris garde, la suite eût été bien différente. S'il avait été paille et non pas blé, Satan n'aurait pas désiré le cribler. Il ne cherche pas à tenter un inconverti, qu'il dirige et gouverne entièrement selon sa volonté, mais il s'attaque toujours aux enfants de Dieu. Cet épisode se retrouve dans la vie de tout croyant. Il nous montre jusqu'où nous pouvons tomber si nous nous fions trop à nous-mêmes. Jésus commence par avertir Simon, puis il prie pour lui avant qu'il ne tombe, et ensuite il prend soin de lui.
« Satan a demandé à vous avoir,
et relié par la grâce à,
j'ai prié pour toi. »
Le Seigneur use de Satan pour briser la confiance en soi de Pierre, cause de sa chute, mais il ne l'autorise pas à aller plus loin. Le jour de la Pentecôte, Pierre, restauré et heureux dans l'amour de son Sauveur, put être le moyen de la conversion de 3000 personnes. Sans cette expérience amère, il n'aurait jamais été suffisamment brisé et humilié pour être employé au service du Seigneur. À cet avertissement, Pierre répond,
« Seigneur, avec toi je suis prêt à aller et en prison et à la mort. »
Verset 33. Ces mots donnent le secret de sa chute. S'il n'avait pas été si sûr de lui-même, au lieu de dire « Je suis prêt », il aurait prié « Seigneur, garde-moi. Seigneur, aide-moi, ne me laisse pas tomber sous le pouvoir de Satan. » S'il avait appris à ne pas se confier en lui-même, mais à s'appuyer sur son maître et à demeurer près de lui, il ne serait pas tombé. Après le verset 34 se placent les chapitres 14, 15 et 16 de Jean, puis la merveilleuse prière du chapitre 17. Pierre dut certainement entendre ces paroles. Puis le Seigneur se rend au torrent du Cédron. Il prend avec lui ses trois disciples préférés, Pierre, Jacques et Jean, ceux qui avaient vu sa gloire sur la montagne, et assisté à la résurrection de la fille de Jaïrus, et il se retire pour prier. Quand il fut dans le jardin, nous lisons qu'il commença à être attristé et fort angoissé.
Alors il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant.
Matthieu 26, versets 38 et 39. Il revient vers ses disciples et les trouve dormants. Le maître prie, les serviteurs dorment. Le maître agonise devant Dieu, montrant la perfection de sa dépendance. Dans un moment de tristesse incomparable, ses serviteurs dorment. Pierre dormait dans la présence de la gloire du Seigneur. Il dort maintenant en présence de son accablement. Aussi pouvons-nous comprendre le reproche qui lui est adressé.
« Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure? Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. »
Marc 14, verset 37-38. Le Seigneur trouve ses disciples profondément endormis, au moment où il aurait pu espérer les voir veiller avec lui dans son angoisse, bien qu'ils ne pussent pas la partager. Il désirait avoir avec lui ceux qu'il aimait. sur la croix, sa plainte fut « Tu as éloigné de moi amis et compagnons, ceux de ma connaissance me sont des ténèbres. » Psaume 88, verset 18. C'est bien tristement qu'il dit à Pierre « Tu n'as pu veiller une heure. » Mais la grâce ajoute « La chair est faible. » Le Saint-Esprit n'était pas encore revenu sur eux pour les fortifier et les rendre capables de souffrir pour leur maître dans n'importe quelle circonstance. Le Seigneur s'éloigne et prie pour la troisième fois quand apparaît Judas, le traître, avec un grand nombre d'hommes, porteurs de glaives et de bâtons. Pierre, de son épée, coupe l'oreille de Malchus, esclave du souverain sacrificateur. Le Seigneur opère là son dernier miracle, en guérissant la blessure, au moment où cette foule l'entoure pour se saisir de lui. Il lie Jésus et l'emmène, et tous les disciples le laissèrent et s'enfuirent. Matthieu 26, verset 56. Quand même ils avaient tous promis de ne pas le renier, et Pierre venait d'affirmer « Avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. » Verset 33. Quand le Seigneur priait, Pierre dormait. Ensuite, il luttait avec son épée, quand il aurait dû rester tranquille. Et maintenant, il abandonne son maître qui, plus que jamais, aurait dû être entouré par les siens. Ici, le récit donné par les quatre évangélistes offre de très légères divergences que l'on peut facilement concilier, moyennant quelques explications. Commençons par décrire sommairement la maison romaine, celle du moins qui appartenait à un haut dignitaire ou à un propriétaire fortuné. Elle n'avait pas d'étage ni d'autre ouverture sur la rue que la porte avec une loge pour le gardien. Un couloir conduisait dans une cour intérieure à ciel ouvert, des deux côtés de laquelle se trouvaient les appartements privés. Au fond, une vaste pièce servait de salle de réception ou même d'audience si le maître des lieux était un grand personnage civil ou ecclésiastique. Du haut de son siège, il voyait quiconque entrer depuis dehors ou bien stationner dans la cour. Ceci nous permet de comprendre que Jésus, quand il comparut devant le souverain sacrificateur, put, en se tournant, voir Pierre assis avec les esclaves devant le feu. Luc 22, verset 61.
Et le Seigneur se tournant regarda Pierre, et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur comme il lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. »
Pierre et Jean accompagnèrent leur maître quand les soldats l'emmenèrent depuis le jardin de Gethsémané. Mais Pierre suivait de loin. Verset 54. Jean, qui connaissait le souverain sacrificateur, fut admis sans autre dans le palais, mais revint en arrière pour prier la portière de laisser passer son compagnon. Puis, sans doute, il rejoignit Jésus. Quant à Pierre, arrivé dans la cour, il y vit un feu allumé par les gardes, car il faisait froid, et s'assit parmi eux, côte à côte avec les ennemis du Christ. Pierre renia le Seigneur trois fois dans l'ordre suivant. Premièrement, lorsqu'il fut admis par la portière à pénétrer dans la cour, Jean nous dit qu'elle fut la première à le défier. Jean 18, verset 17.
La servante qui était portière dit donc à Pierre, « Et toi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» lui dit, « Je n'en suis point. »
Matthieu, chapitre 26, versets 69 à 70, précise qu'elle vint à lui lorsqu'il était assis dehors dans la cour. Matthieu 26, versets 69-70.
Or Pierre était assis dehors dans la cour, et une servante vint à lui disant, « Et toi, tu étais avec Jésus le Galiléen ? » Et il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu dis. »
Tandis que Marc, chapitre 14, versets 66 à 68, et Luc, chapitre 22, versets 54 à 57, situe le premier reniement au moment où il était assis devant le feu. Marc 14, versets 66 à 68.
Et comme Pierre était en bas, dans la cour, une des servantes du souverain sacrificateur vient, et apercevant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et dit, « Et toi, tu étais avec le Nazarénien Jésus ?» Et il le nia, disant, « Je ne sais ni n'entends ce que tu dis. » Et il sortit dehors dans le vestibule, et le coq chanta.
Luc 22, versets 54 à 57.
Et se saisissant de lui, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Or Pierre suivait de loin. Et lorsqu'ils eurent allumé un feu au milieu de la cour, et qu'ils se furent assis ensemble, Pierre s'assit au milieu d'eux. Et une servante, le voyant assis auprès de la lumière, et l'ayant regardé fixement, dit, « Celui-ci aussi était avec lui. » Mais il le renia, disant, « Femme, je ne le connais pas. »
J'explique la chose en admettant que la servante commença à parler à la porte, puis le suivit en parlant près du feu où d'autres continuèrent. Deuxièmement, la seconde fois ce fut pendant que Pierre se tenait près du feu et se chauffait, plusieurs vinrent près de lui pour l'interroger.
Ils lui dirent donc, Jean 18, verset 25. Et Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent donc, « Et toi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. »
Matthieu, chapitre 26, versets 71 à 72, pousse à croire que, après le premier reniement, Pierre s'était éloigné du feu et était allé dans le vestibule, où une autre servante le vit et dit,
« Celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen. »
Matthieu 26, versets 71 à 72.
Et une autre servante le vit comme il était sorti dans le vestibule, et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci aussi était avec Jésus le Nazaréen. » Et il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. »
Marc dit, chapitre 14, versets 68 à 70,
« Il sortit dehors dans le vestibule,
et la servante le vit et dit,
« Celui-ci est de ces gens-là. »
Marc 14, versets 68 à 70.
Et il sortit dehors dans le vestibule, et le coq chanta. Et la servante, l'apercevant encore, se mit à dire à ceux qui étaient là, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau.
Luc nous informe simplement par ces mots,
« Un autre le voyant. »
Verset 58. L'apôtre fut donc assailli de questions par plusieurs personnes. Mais les réponses ne varient guère que dans leur forme, bien que Matthieu ajoute qu'il nia avec serment. Chapitre 26, verset 72.
Et il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. »
Troisièmement, quant au troisième reniement, Matthieu 26, verset 73 à 75, indique que plusieurs, cette fois, s'acharnèrent sur le malheureux Simon, car son langage le faisait reconnaître. Matthieu 26, versets 73 à 75.
Et un peu après, ceux qui se trouvaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi, tu es aussi de ces gens-là, car aussi ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti dehors, il pleura amèrement.
Marc, chapitre 14, verset 70, fait le même récit. Et Luc, chapitre 22, verset 59 à 60, également, bien qu'il ne nomme qu'une personne. Marc 14, verset 70.
Et encore un peu après, ceux qui étaient là présents dirent à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car aussi tu es galiléen. »
Luc 22, versets 59 et 60.
Et environ une heure après, un autre affirma, disant, « En vérité, celui-ci aussi était avec lui, car aussi il est galiléen. » Et Pierre dit, « Ô homme, je ne sais ce que tu dis. » Et à l'instant, comme il parlait encore, le coq chanta.
Jean 18, versets 25 à 27, mentionne le grand nombre, mais ajoute que l'un des esclaves, parent de celui qui avait eu l'oreille coupée, reconnut Pierre. Jean 18, versets 25 à 27.
Et Simon-Pierre se tenait là et se chauffait. Ils lui dirent donc, « Et toi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » L'un d'entre les esclaves du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu, moi, dans le jardin avec lui ?» Pierre donc nia encore, et aussitôt le coq chanta.
Il semble donc bien que Pierre renia son Seigneur devant un certain nombre de témoins, dans deux cas au moins. Les esclaves, rassemblés dans la cour, le considéraient comme un sujet de raillerie, la plaisanterie était de leur goût. Ainsi, nous comprenons mieux la nature de la tentation qui fit tomber Pierre. Rien de plus exaspérant que d'être bafoué par des esclaves qui, à leur grossièreté, mêlent le venin et la haine de leur propre maître contre Jésus. Le disciple avait affaire à forte partie, mais c'est surtout sa condition première qui occasionna sa chute. En réalité, Simon, à cause de sa confiance en lui-même, était tombé avant d'être dans la cour du souverain sacrificateur. Le Saint-Esprit nous a soigneusement rapporté ces paroles durant le dernier souper. Jésus avait averti ses disciples.
« Vous serez tous scandalisés en moi. » Matthieu 26, verset 31.
Que répondit Pierre ?
« Si tous étaient scandalisés en toi, moi, je ne serais jamais scandalisé en toi. Quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. »
Matthieu 26, verset 33 à 35. Et
« Avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. »
Luc 22, verset 33. Et encore,
« Je laisserai ma vie pour toi. »
Jean 13, verset 37. Il croyait certainement ce qu'il disait, car il n'était pas hypocrite. Mais sa sûreté ne lui fit pas prendre garde, et il s'éloigna de Christ.
« Que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. »
1 Corinthiens 10, verset 12. Il ne songea pas à ces mots, et bien qu'averti, il ne pria pas d'être gardé de la tentation. Il dormait quand il aurait dû rassembler ses forces, et fut une proie facile pour l'ennemi au moment où il aurait dû humblement et courageusement confesser son Seigneur. Quand, pour la troisième fois, il renie son maître, le coq chanta. Il avait déjà chanté une fois, et le disciple aurait dû se souvenir des paroles du Seigneur, mais il n'y prêta pas attention et continua à le renier, même avec serment. Pourtant, il aimait son maître. Cette dernière fois, lorsqu'il entend le coq, il se souvient. Au même moment, Jésus se tourne et regarde Pierre, un regard dans lequel on pouvait lire tout son amour pour son serviteur, amour immuable, inchangé, qui dut poursuivre Simon durant les trois jours suivants, jusqu'à ce que, après la résurrection, il pût rencontrer le Seigneur.
Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement.
Verset 62. Il se repent lorsqu'il comprend sa folie et son péché dans la lumière de l'amour de son Seigneur. La repentance provoque le jugement du péché dans la lumière de l'amour et de la grâce. Le remords envisage le péché dans ses résultats. La repentance entraîne l'espérance, le remords le désespoir. La repentance ramène l'âme à Dieu, le remords l'enfonce toujours plus profondément dans le péché, entre les mains de Satan. Tels sont les deux caractères de Pierre et de Judas. Judas, qui ignorait ce qu'était la grâce, et plein de remords devant sa lâcheté, va se pendre. Pierre, qui connaissait la grâce, comprit, alors mieux que jamais, combien le Seigneur l'aimait. Il sortit et pleura amèrement. Le dernier acte de Pierre fut de renier son Seigneur. Immédiatement après, son maître mourut pour lui. Si Jésus n'avait pas été cloué sur la croix pour lui, Pierre n'aurait pas pu être restauré ni sauvé. Le disciple dut être horriblement malheureux ce jour-là. Il sut plus tard que ceux qui lui avaient tenu compagnie frappèrent Jésus, se moquèrent de lui, l'envoyèrent ligoter d'un prêtre à un autre, et finalement l'amenèrent à Pilate. ils réclamèrent son sang. Et Pilate, craignant César, dut céder à contre-cœur et le livra pour être mis à mort. L'Écriture ne nous renseigne pas sur les sentiments qui agitèrent Pierre pendant ce temps. Nous sommes certains d'une chose, du regard du Seigneur et des paroles du Seigneur.
J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas.
Cela dut le réconforter et l'empêcher de sombrer dans le désespoir comme le fit Judas. Conservons l'enseignement à tirer de ce récit. Marchons soigneusement avec prière et demeurons bien près du Seigneur. Cela nous prouve une fois de plus que le trait de caractère qui distingue le disciple de Christ est propre à le faire tomber. Pierre était courageuse et dévouée au Seigneur. Souvent, la force réelle d'une chaîne se trouve dans le plus faible anneau. Ce que nous considérons comme notre véritable point fort est en réalité notre point faible, là où Satan nous attaquera. Moïse, l'homme le plus doux, se mit en colère pour une cause futile. Abraham, remarquable par sa foi, y manqua. Élie, un homme éminemment courageux, s'enfuit devant une femme. Job, connu pour sa patience, succomba. Jean, l'apôtre de l'amour, aurait voulu voir le feu du ciel tomber sur les Samaritains. Paul, l'apôtre du christianisme, retomba pour un temps dans le judaïsme. Un seul fut un parfait serviteur, égal en toutes choses, dépendant, dévoué, saint, fidèle, tendre et tout amour. Sans doute, la place en vue qu'occupait Pierre au service du Seigneur présentait bien des dangers. L'ennemi l'avait remarqué, car il se plaît à provoquer et à faire trébucher les conducteurs parmi les serviteurs de Christ. La manière dont Satan attaqua le Seigneur lui-même doit nous rendre attentifs, mais assurer qu'il ne nous laissera jamais seuls. Le succès dans le travail pour le Seigneur n'est pas une sécurité, et si le Maître nous emploie à son service, le crible de Satan dépendra aussi de ce travail. Le seul chemin sûr est de se tenir aussi près que possible du Seigneur et aussi loin que possible des faveurs du monde et de la chaleur du feu.